franceinter.com.
Tout de suite, 3D, le journal avec Stéphane Paoli en direct d'Annecy. Bonjour.
Bonjour Dominique Delaroy, oui, dans un cadre grandiose, il n'y a vraiment pas d'autre mot, devant le lac d'Annecy, dans les salons de l'Imperial Palace, comme son nom l'indique, un cadre impérial pour un 3D qui commence.
3D. 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 Le journal de Stéphane Paoli. France Inter.
Avec peut-être, les avez-vous entendu, les applaudissements de tous ceux qui sont très nombreux, et ça fait vraiment plaisir de vous voir ici, tous ceux qui applaudissaient le cadre. Parce que c'est vrai qu'on est ici dans quelque chose de difficilement descriptible d'ailleurs, tellement la beauté est confondante. Pourquoi sommes-nous à Annecy ? Parce qu'Annecy a engagé sa candidature pour les Jeux d'hiver 2018. C'est une candidature, c'est un pari qui pose plein de questions. Qui entraîne aussi d'ailleurs des contestations. Vous verrez que nous en parlerons dans la deuxième partie de 3D tout à l'heure. La première partie de 3D va porter sur ce qui est en train de se passer, qui est une extraordinaire révolution. Mais au sens plein du mot révolution, ce qui est en train de se passer en Égypte et bien au-delà de l'Égypte est un phénomène politique probablement de très très grande importance. C'est une révolution générationnelle. C'est une révolution technologique. C'est probablement une vraie révolution culturelle engageant des questions confessionnelles. Voilà tout à coup que l'islam se confronte à la question de la démocratie. Qu'en sortira-t-il ? Donc, il est évident qu'en une heure d'émission, nous n'aurons pas fait le tour de toutes ces questions, mais je crois qu'il est important d'être attentif et, j'allais dire, bienveillant à l'égard de ce qui est en train de se passer à travers les questions que nous allons engager. Ce phénomène politique est de toute première importance et c'est peut-être une nouvelle image de notre monde. Ça n'est plus Washington qui pilote. Désormais, vous avez des autorités brésiliennes et turques qui vont négocier avec le pouvoir iranien sans passer par Washington. C'est dire qu'aujourd'hui, une nouvelle image du monde est en train de se construire et elle est en train de se construire en ce moment au Caire. Quand vous entendez Dominique Delaroy nous dire à l'instant que des négociations sont ouvertes entre le vice-président M. Souleymane, au passage patron des services secrets militaires, avec les frères musulmans, mouvement interdit en Égypte, toléré, mais interdit, c'est vous dire si décidément des choses importantes sont en train de se passer. Voilà, je crois que ça peut être un thème qui va nous occuper dans les minutes qui viennent. Je vous présenterai dans un instant nos invités. Mais on ne commence jamais 3D sans le regard exigeant, pointu, et lui aussi chaleureux d'ailleurs, de Caroline Cartier sur la semaine écoulée, panoramique.
Partez. 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 Partez.
Le départ du président Moubarak.
C'est une bataille rangée, en jeu la prise de la place Tahrir, devenue le rempart de la contestation. Une marée compacte de partisans de Moubarak avance et reflue.
Partez.
Sur l'entrée principale de la place, coincée entre ce groupe et celui des opposants. On voit des pierres voler des deux côtés. Il y a au moins 500 blessés.
Partez. Partez.
Les journalistes étrangers seraient la cible des partisans d'Hosni Moubarak. Selon certaines rédactions, la télévision publique égyptienne lancerait des appels au lynchage à peine déguisés.
Partez.
Cessez. Je demande expressément aux autorités égyptiennes de faire cesser ces agissements inacceptables, d'assurer la sécurité et la liberté d'exercice de la presse.
Très amicalement et sobrement, je vous dis madame, partez.
À l'Assemblée, la ministre de nouveau sous le feu des questions des députés.
Alors je vais vous le dire, je suis meurtrie.
Mais est-ce qu'un ministre des Affaires étrangères peut comme ça voyager avec l'aide d'amis dans des avions privés ?
De voir ce dont on m'accuse, je suis meurtrie de voir que l'on essaie de monter une opération autour de ce qui n'existe pas.
C'est une faute. Quand on laisse sortir de prison un individu comme le présumé coupable, sans s'assurer qu'il sera suivi par un conseiller d'insertion, c'est une faute. Ceux qui ont couvert ou laissé faire cette faute sanction, sanction.
Le mouvement de protestation entamé par les magistrats nantais prend de l'ampleur. Hier, les tribunaux de Besançon, Rennes, Quimper et Bayonne ont annoncé qu'ils tourneraient eux aussi au ralenti jusqu'à jeudi prochain.
Cessez ces agissements inacceptables.
Partez.
Cessez.
Alors ça, maintenant, je vais être très attentive. Je pense que je ne quitterai pas la Dordogne si ça continue comme ça.
Ah, et ben, y a même des bonnes nouvelles dans 3D. Et puis, autre question sur laquelle il faudra que nous revenions dans quelques temps. Dans 3D, il consacrera probablement un thème. Cette création française qui est désormais le présumé coupable. Il faudra qu'on s'arrête sur cette présomption de culpabilité décrétée par le président de la République et qui interroge le fonctionnement même de nos institutions, jusque-y compris notre Constitution. Ce sera un beau thème aussi. Permettez-moi de dédicacer, c'est exceptionnel, de dédicacer ce 3D aujourd'hui à deux personnes. L'une qui est née en Égypte, qui s'appelle Alex Stavrinaki, un homme d'Alexandrie. L'autre personne, c'est quelqu'un qui s'appelle Jérôme Nobécourt, qui est un romancier qui nous écoute en ce moment et qui n'est pas dans la meilleure position pour nous écouter. C'est la raison pour laquelle je lui dédie cette émission. Vont participer à cette émission sur les questions posées par le Moyen-Orient. Et on commencera avec lui parce que son regard de sociologue va nous éclairer sur l'aspect générationnel de cette révolution. Monsieur Reda Benkirane, bonjour et bienvenue. Merci d'être ici avec nous dans le salon de l'Imperial Palace à Annecy. Vous êtes sociologue, vous êtes consultant auprès d'organisations internationales à Genève et vous êtes l'animateur d'un portail de connaissances qui s'appelle archipresse.org. Vous êtes aussi l'auteur d'un essai qui est paru aux éditions du CERF et qui a pour titre « Le désarroi identitaire, jeunesse, islamité et arabité contemporaine ». Invité également de cette émission, Jean Marcoux. Bonjour, monsieur Marcoux. Merci d'être ici. Vous êtes professeur à l'Institut d'études politiques de Grenoble. Vous êtes vous aussi auteur de nombreux essais, entre autres « L'Égypte contemporaine »,« Le Cavalier bleu », aux éditions du Cavalier bleu, c'est paru en 2008. « La Turquie », et on va beaucoup parler de la Turquie dans les minutes qui viennent, « La Turquie à l'heure européenne », c'est un essai que vous avez rédigé avec Jean-Paul Burdier et qui est paru aux presses universitaires de Grenoble en 2008. Également présent ici, M. Hasni Abidi. Bonjour, monsieur, et merci d'être là. Vous êtes directeur du CERMAM, c'est-à-dire du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen, qui est basé à Genève, et vous êtes chercheur invité à l'Université Paris 1. Et puis, enfin, M. Fabrice Ballanche. Bonjour, M. Ballanche.
Bonjour.
Merci d'être ici. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Lyon en géographie et vous êtes directeur du GREMO, c'est-à-dire du groupe de recherche et d'études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient, qui, lui, est basé à Lyon. C'est un vrai plaisir que de réunir souvent dans les studios de 3D des chercheurs et des universitaires qui viennent de toutes les régions de France et donc chacun avec un regard déparisianisé. C'est pas mal aussi d'avoir une lecture un peu différente et un petit peu moins, j'allais dire, anthropocentrée sur la lecture parisienne des événements. Alors, je voulais qu'on commence avec vous, Monsieur Benkirane. Je disais en commençant, révolution générationnelle, les jeunes. Et il y a même une phrase qui m'a beaucoup intéressé dans ce qui est dit en ce moment au Caire, ce matin. Dans les négociations entre le pouvoir politique et désormais les frères musulmans, il faut que les jeunes soient présents dans la discussion, c'est eux qui portent la révolution. Est-ce en effet une vraie révolution générationnelle à vos yeux ?
Je pense, je ne me prononcerai pas sur l'État, si c'est vraiment une révolution accomplie, mais il y a ces journées de janvier, c'est vraiment du réel à l'état pur. Nous sommes il y a une dimension... subversive, libératrice et révolutionnaire. Maintenant, il y a des processus en cours. La révolution tunisienne, c'est la Tunisie qui a commencé. Bon, ça continue, il y a encore des problèmes. Hein. Là, nous sommes au début d'un cycle.
Il y a encore même eu des morts en Tunisie hier. Quatre personnes qui ont été tuées dans des affrontements avec la police. Donc, c'est dire que le mouvement n'est pas aussi serein qu'on pourrait quelquefois le décrire.
Mais je crois que nous sommes effectivement au seuil d'une étape importante pour le monde arabe. Vous avez au début de l'émission décrit très bien la situation au niveau mondial. Nous sommes dans une phase de ce que j'appellerais un monde post-occidental, multipolaire. Et dans cette phase de restructuration du système mondial, le monde arabe, c'est l'homme malade du XXIe siècle. sur le plan politique. Vous avez 360 millions d'individus. Mais malheureusement, la notion de démocratie arabe était jusqu'à maintenant une impossibilité.
Mais vous dites l'homme malade, on a l'impression qu'il vient de se lever de son lit de malade, l'homme en question.
Justement, ce qui se passe actuellement, je pense que c'est au niveau de quelque chose de très profond, au niveau de la structure mentale à sauter. Et je pense que c'est essentiellement un rapport au pouvoir. Et cette parole de dire ce ras-le-bol exprimé vis-à-vis du pouvoir politique, de dire « va-t'en, dégage », ce qui relevait jusqu'à présent dans beaucoup de pays de l'impensé, c'est un verrou très important à sauter. Et je dirais que nous sommes vraiment... la phase de démocratisation maintenant est amorcée. C'est un peu logique, si vous voyez un peu ce qui s'est passé, d'une part, les trois pays de l'Europe du Sud, hein, il y a 30-40 ans, l'Espagne, le Portugal, la Grèce. Bon, l'Espagne était une dictature sur le plan du développement économique presque quasi tiers-monde. Il y a une démocratisation. Ensuite, les pays de l'Europe de l'Est, l'Amérique latine. Je crois que cette phase, maintenant, c'est les pays arabes qui vont entamer un processus de libération.
Vous soulevez un point, mais on va y revenir. Il est important. En effet, l'Espagne, le Portugal et d'autres sont passés à des systèmes plus démocratiques et carrément démocratiques.
Et aujourd'hui, la Turquie aussi.
Mais chacun à sa façon. Et donc, il ne faut pas plaquer sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Moyen-Orient un modèle standard. Chacun aura son approche de l'enjeu démocratique avec son histoire, sa culture, ses différences. Je voudrais juste vous faire écouter quelque chose qui est Jean Pirot. Bonjour Jean.
Bonjour.
Tu as fait une petite enquête. Où t'es-tu rendu pour poser les questions que tu avais envie de poser ?
Eh bien, je me suis rendu au Maghreb et au Moyen-Orient, mais seulement je suis resté à Paris parce que je n'avais pas le temps.
Ouais.
Donc je suis allé à la radio MC Doualia, qui est une radio française d'expression arabe, une filiale de RFI, où là, j'ai eu la chance d'avoir des journalistes de tous ces pays.
Des représentants du Maroc, de la Tunisie, de l'Algérie,
de l'Égypte, le Maghreb et d'une partie des pays arabes. Et je leur ai posé les questions que vous allez entendre.
Et c'est beau parce que tu commences par la question des fleurs.
Quelles fleurs pour la Révolution ?
Pour l'Égypte, c'est le lotus. C'est le symbole de l'Égypte de Pharaon. Et aujourd'hui, les Pharaons, c'est le peuple égyptien, parce qu'on ne peut jamais casser la volonté d'un peuple qui se révolte.
Comment passer au travers de la peur ?
Il a fallu une étincelle. Ce n'était pas qu'une étincelle, c'était carrément un bonhomme qui s'est immolé. Et ça a ouvert la voie pour tout le monde.
La jeunesse est-elle une qualité pour traverser la peur ?
Il y a un énorme décalage entre le peuple qui est formé pour sa majorité de jeunes. En Algérie, par exemple, on a 70% de jeunes qui ont moins de 30 ans. En Tunisie, c'est un peu pareil. Au Maroc aussi, en Égypte aussi. Une génération très ouverte au monde entier. Et c'est eux qui sont capables de faire bouger les choses au Moyen-Orient. Pour la première fois en Égypte, on a entendu parler du mot « démocratie » avant le mot « pain ». Et ça, c'est quelque chose de très important.
De quelle façon ces révolutions ont-ils changé le regard des Français sur vos pays ?
Quand on parle d'opinion occidentale ou européenne ou française, on parle généralement de politique, mais il ne faut pas oublier la population, les gens moyens qui se réjouissent de chaque pas de démocratie ou chaque révolte contre l'oppression, parce qu'ils se reconnaissent dans cette révolte-là.
Vous pensez qu'on se reconnaît dans les oppressions comme dans les libérations ?
On n'a qu'à se rappeler de ce qui s'est passé en France sous l'occupation allemande. Plein de peuples qui sont des anciennes colonies qui ont senti ce besoin d'aller combattre aux côtés des Français. Et en même temps, ils se réjouissaient parce qu'il y a eu la libération de la France. Hélas, bon.
L'Agence internationale pour l'emploi des dictateurs a-t-elle des soucis à se faire ?
Beaucoup de soucis.
Énormément.
C'est surtout le roi Abdallah de l'Arabie Saoudite. Là, je crois qu'il a coupé son téléphone.
Ça nous amuse tous les jours en travaillant ici, hein, de voir Assad prendre des résolutions, le roi du Maroc, pareil en Algérie. Mais tout ça, c'est pas suffisant, c'est fini.
La peur a changé de camp.
En tant que Marocain, vous êtes jaloux de la Tunisie ?
Je suis mort de jalousie.
Et vous, l'Algérien ?
Ah oui, on est très jaloux. Bravo la Tunisie.
Ce serait quoi comme fleur pour vous ?
Pour l'Algérie, ce serait plutôt du jasmin.
Et vous ?
Allez, la tulipe marocaine.
Le Maghreb et le Moyen-Orient, ça sera un bouquet bientôt ?
Le plus beau bouquet, avec beaucoup d'odeur. C'est un bouquet qui est mis dans l'eau du Nil. Et on sait ce que c'est le Nil quand il déborde.
quand il déborde et quand les jeunes descendent dans la rue partout. Une question encore, Monsieur Benkirane, sur la dimension nouvelle et singulière de la technologie dans le mouvement politique en cours, c'est-à-dire les réseaux, c'est-à-dire Facebook, c'est-à-dire la capacité à faire passer très vite les messages et bien au-delà des frontières. C'est pas indifférent de savoir qu'en Chine, on a coupé un certain nombre de réseaux d'information parce qu'il ne faudrait peut-être pas que de jeunes Chinois aient les mêmes idées que les Égyptiens, les Tunisiens, les Algériens, les Koweïtis, les Jordaniens, les Yéménites, et j'en passe.
Absolument. Les réseaux sociaux et je dirais les technologies de l'information que l'on avait tendance ces derniers temps à présenter comme des technologies liées au divertissement, etc., aujourd'hui sont peut-être en train de contribuer à des nouvelles formes de démocratie. Que ce soit même en Europe, on voit qu'il y a une désaffection des partis politiques, que la manière, disons, le scrutin électoral est, pour, disons, est délaissé. Est-ce que c'est un recul de la démocratie? Pas forcément. Ce qui se passe actuellement montre de l'émergence de nouveaux mouvements. Mmh. Et c'est pour ça que ce qui se passe aussi à Midan Tahrir, la place de la libération aujourd'hui au Caire, montre un mouvement avec un motif, un pattern assez nouveau. Pas de leader, pas de mot d'ordre à part celui pas d'idéologie, transgénérationnelle, toute classe confondue. Et l'utilisation des technologies de l'information pour à la fois qui amplifie la contestation. Donc je crois que peut-être c'est de nouvelles formes de combat politique, de nouvelles manières d'entrevoir la démocratie sont en train de voir. J'ajoute aussi que dans le monde arabe, les partis politiques, opposition, etc., aussi sont un peu décrédibilisés. Mmh. Le fait qu'il n'y ait pas un leadership ou un parti dominant derrière, je trouve c'est extrêmement nouveau et ça peut-être annonce de nouvelles formes. Il y a de nouvelles formes de tyrannie aussi, même dans nos démocraties. Hein, les marchés ont toujours raison.
Tout à fait.
Donc ça peut donner une indication de ce qui pourrait se passer dans d'autres sociétés postmodernes.
Passons aussi dans le champ symbolique, parce que quelquefois les symboles ont leur importance. Jean-Marc Roux, alors je rappelle que vous êtes professeur à l'Institut d'études politiques de Grenoble. Vous avez fait un petit livre extrêmement bien fichu, parce qu'on comprend beaucoup de choses, et notamment on dépasse les idées toutes faites sur le Moyen-Orient. Il a pour titre l'Égypte contemporaine. Il est paru aux éditions Le Cavalier Bleu. Et vous dites tout de suite, dès la première page, les Kérotes, ceux qui sont rassemblés en ce moment-là sur la place centrale, ils ont appelé cette place comment ? La mer du monde ?
Oui, oui.
La mer du monde. Et donc cette nouvelle image du monde que j'évoquais tout à l'heure, elle est en train de s'instruire, peut-être de prendre forme à travers ce qui est en cours sur cette place centrale du Caire. C'est la question du passage à la démocratie qui est engagée. Comment percevez-vous ce passage à la... D'abord, s'agit-il en effet possiblement d'un passage à la démocratie ou pas? L'armée est toujours en train de contrôler tout ce qui se passe en Égypte et singulièrement au Caire.
Oui. Je crois qu'on peut être enthousiaste sur le plan personnel. En même temps, sur le plan de l'analyse, il faut être effectivement plus prudent et souvent plus rigoureux. Je pense que la question qui est posée à l'heure actuelle, c'est celle d'une transition politique hein, face à un régime qui est totalement immobile. Hein, ou qui n'a pas bougé politiquement, même si la société égyptienne, malgré tout, a évolué. Et donc, on annonçait au début de l'émission, finalement, cet engagement des discussions entre le général Soliman et finalement les frères musulmans et un certain nombre de forces qui représentent ce mouvement populaire.
Mais ce qui aurait été impensable il y a simplement 8 jours.
Enfin, oui, mais en même temps, je crois qu'au-delà de la personne de Moubarak et au-delà de ce premier pas, la question qui va être posée, c'est celle de savoir jusqu'où le changement va aller. Et on le voit déjà dans l'exemple tunisien, même le basculement du régime avec le départ de Ben Ali, finalement, n'a pas pour autant amené du jour au lendemain le changement. Le changement, il se construit maintenant. Et dans les prochains jours, je crois que si ces négociations se poursuivent, il va falloir voir jusqu'où, finalement, on peut aller dans le changement, jusqu'où les forces en présence sont capables d'impulser un changement. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au-delà de la personne personne de Moubarak. L'Égypte actuelle, c'est un certain système. Un système où l'armée est effectivement prédominante, on l'a vu au cours des dernières semaines. Et un système qui, face à ce mouvement, a eu quand même une remarquable capacité de résistance.
Mais alors, on est dans une question qui va concerner désormais la structure politique et même l'histoire politique. Nous avons, et M. Benkirane le décrivait à l'instant, un phénomène générationnel, les jeunes dans la rue. Mais ce ne sont pas les jeunes qui vont construire le changement. C'est l'appareil politique en place. M. Soliman est l'ancien patron des services secrets égyptiens. C'est un proche de Moubarak. C'est un militaire. On voit bien qu'en Tunisie, c'est un premier ministre qui était aux côtés de Ben Ali qui pilote aussi les réformes. Donc, les structures et les modifications en cours sont les héritiers d'un système préexistant. Donc, que restera-t-il du mouvement générationnel et qu'en est-il des aspirations au passage à la démocratie ?
Je crois que le fait que ça soit le système ancien qui participe à la construction du nouveau système n'est pas, quelque chose d'absolument nouveau. Si vous regardez ce qui s'est passé, par exemple, en Espagne, on a eu ce qu'on appelle la transition démocratique. C'est quand même un petit peu le système ancien qui accepte progressivement de générer, bien évidemment avec d'autres forces, des forces de rupture, un nouveau système. Bon. Ce qu'il y a, si vous voulez, dans le système égyptien, la particularité, c'est pour ça qu'il y a un enjeu qui est quand même très fort, c'est que le système antérieur est particulièrement, résistant. Oui. Hein, d'une certaine manière, ça fait 30 ans qu'il résiste, parce que même s'il n'y a pas eu d'événements ou des mobilisations qui ont avorté, malgré tout, l'Égypte, on a souvent une vision au travers du tourisme un petit peu positive. Moi, je suis assez effaré par ce que j'entends ces derniers jours quand je participe à des bals. Les gens ne mesurent pas, le système policier, le système de contrôle, les tortures, le contrôle social qui peut exister. Mais on a un système qui est particulièrement résistant, qui jusqu'à présent, d'une certaine manière, a toujours résisté à ce changement. Et pour l'instant, bon, on a surtout ce mouvement qui est extraordinaire, dont on parlait effectivement de mobilisation par de nouvelles technologies, mais il va aussi falloir que d'autres formes prennent le relais. Alors, bien évidemment, là, on est au niveau de ces structures sont relativement faibles, à part la présence ancienne des frères musulmans, qui sont en même temps un ensemble assez...
Ambigu quand même, parce qu'interdit, mouvement interdit, mais toléré, qui n'avait jusqu'à présent jamais négocié avec le pouvoir...
Absolument. Oui. Tolérés par le régime, qui ont des positions assez fortes. D'ailleurs, s'ils ont hésité au tout début du mouvement, c'est un petit peu parce qu'ils se demandaient quel était leur intérêt. Est-ce qu'il fallait basculer dans le mouvement ou finalement garder les positions qu'ils ont pu acquérir dans la société égyptienne, dans le régime de Moubarak, qui avait un petit peu cet aspect-là.
Mais au moment où tout est en recomposition, où tout bouge en même temps, on est vraiment dans la complexité telle que les sociologues, à commencer par Edgar Morin, qui a été un peu le père de la théorie, tout bouge en même temps, c'est ça la complexité.
Oui. Et ça
la grille de lecture est très difficile, évidemment.
Mais ça peut créer aussi un mouvement. On voit bien au Portugal qui était quand même pas très près, en 1974, à basculer dans un autre régime où les forces d'opposition avaient été démolies par des décennies de régimes.
Oui, mais alors là, ça pose la question, elle aussi difficile, y a-t-il des modèles ? On entendait dans les témoignages recueillis par Jean Pierrot dire « Ah là là, vraiment, nous, les Marocains, on est quand même jaloux des Tunisiens, ils ont fait un truc formidable. » Y a-t-il un modèle aujourd'hui où chacun, compte tenu de son histoire, de ses structures politiques en place, de son expérience, de sa culture, va-t-il imaginer, concevoir, mettre en place, on l'espère pour eux, un modèle démocratique ?
Je ne crois pas qu'il y ait de modèle.
Parce que tout le monde regarde vers la Turquie aujourd'hui.
Oui, oui, bien sûr.
Et... Voilà un système islamo-conservateur, stable.
C'est un pays que je suis heure par heure. Et effectivement, actuellement, dans la presse turque déborde d'analyses, enfin, sur le modèle turc, depuis notamment que mardi dernier, lors de la réunion de son groupe parlementaire, Recep Tayyip Erdogan, pour la première fois d'ailleurs, auparavant il avait été plutôt prudent, mais là il a évoqué effectivement l'expérience politique turque, et désormais c'est vrai que dans la presse turque c'est un débat qui est très présent, mais je crois qu'il faut être prudent, notamment parce que la grande différence, justement, en Turquie, les changements des dernières années se sont structurés autour d'une force qui issue de l'islam politique. Mais je crois que cette évolution a été possible parce que ce parti, l'AKP, est quand même très particulier, notamment parce que depuis près de 30 ans, les islamistes turcs, depuis les années 70, participent à des élections. Bon, quelqu'un comme Recep Tayyip Erdogan, aujourd'hui, est un homme politique qui, même si par moments, il va avoir un discours islamiste, notamment quand il demandera aux femmes turques d'avoir au moins 3 enfants ou fera des remarques sur les mœurs ou sur l'alcool, en même temps, c'est un homme politique qui ressemble finalement furieusement à ses homologues européens. Donc, pourquoi ? Parce que son travail, finalement, quotidien, c'est de gagner des élections, de gérer un pays, déjà, et puis tous les 4 ans maintenant, d'essayer d'être reconduit au pouvoir.
En tout cas, il y a peut-être une chose qu'il faut éviter de faire, parce qu'elle serait évidemment réductrice, c'est d'opposer les deux modèles, j'allais dire, extrêmes dans le regard qu'ils peuvent échanger entre eux, c'est-à-dire le modèle ottoman et le modèle perse. Aujourd'hui, on ne peut pas réduire ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Moyen-Orient entre le modèle ottoman et le modèle perse. Il va y avoir peut-être un modèle tunisien, un modèle algérien, un modèle koweïti et jordanien, parce que ça bouge beaucoup, et au Yémen aussi. Donc il faut que chacun puisse avoir la possibilité d'écrire sa page d'histoire, au fond.
Oui, tout à fait. Quand on parlait tout à l'heure, effectivement, des démocraties du Sud, même quand on regarde finalement ce qui s'est passé dans la péninsule ibérique à quelques mois, eh bien, on a eu finalement entre le passage à la démocratie de l'Espagne, enfin du Portugal tout d'abord, le passage
à la révolution des œillets, puis ensuite, bien sûr,
deux cas qui étaient très différents, alors qui se sont regardés mutuellement d'ailleurs, mais qui n'ont pas emprunté la même voie parce que les acteurs, les traditions et puis simplement les opportunités politiques étaient aussi différentes, les sociétés aussi.
Il faut toujours compter, bien sûr, avec le génie des peuples. Alors, Jean Pirot, deuxième grande question que tu as posée, après celle des fleurs de la Révolution, c'est le sentiment, au fond, que tout ce qui est en train de se passer peut nous inspirer. C'est-à-dire que tu retournes cette fois-ci, le micro, là, l'image vers nous-mêmes, au fond. Comment réagissons-nous à tout ce qui se passe,
Bien entendu, parce que... On entend dans les radios, dans les télévisions, les opinions des politiques français.
Mais on les entend peu, hein, au passage.
Oui, on les entend peu.
Ils ont été un peu lents à réagir.
Voilà. Ouais. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir une analyse comme ça de monsieur et madame tout le monde dans la France profonde, en surface.
Eh bien, voilà ce que ça donne.
Quel sentiment vous inspire ces événements ?
Moi, je trouve ça très triste pour...
Justement, c'est
oui,
pas
non,
triste,
mais...
parce que c'est la libération d'un peuple...
Mais autant de morts, des gens qui s'immolent...
Mais la Révolution française en a fait 100 000 fois plus de morts.
Oui.
Et je pense que c'était une très bonne chose pour le peuple nord-africain, en général, parce que ça risque d'embraser la plupart des pays. Et c'est l'avènement, sans doute, d'une certaine forme de démocratie.
Comment jugez-vous les réactions françaises et européennes à ce sujet ?
Un peu nul. On a perdu de vue l'esprit de la Révolution française.
On a à apprendre d'eux ?
Apprendre, oui, on a plus à apprendre d'eux par la spontanéité du mouvement, pour contrebalancer un peu notre nonchalance, enfin notre renoncement.
C'est une révolution jeune. Nous sommes vieux ?
Très vieux, oui.
La peur de l'islamisme radical, pensez-vous qu'elle joue encore ?
Pour qui? Pour nous? Pour, oui, bien sûr qu'on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Mais je pense que les peuples sont suffisamment intelligents pour savoir faire la part des choses.
Moi, je ressens plutôt un danger face à l'islamisation.
Vous avez encore cette peur?
Oui. J'ai peur surtout pour Israël, qui est, on va dire, le seul pays démocratique de la région.
Vous avez peur que d'autres démocraties s'installent?
Démocratie, non.
Bah alors, allez, un petit peu de courage.
Un petit peu de courage, c'est pas moi qu'il faut le dire.
Vous avez peur?
C'est normal, j'ai de la famille, moi, surtout en Israël. Donc, si c'est un peu le foutoir, tout va être répercuté dans le monde entier.
Peut-être que la transition démocratique ne peut pas se passer autrement.
Oui, mais il fallait que ça se fasse au grand jour et ouvertement.
La peur a joué dans le prolongement des dictatures. Pour peut-être le votant, alors, le dictateur, lui, il y trouve toujours son intérêt. Et il a utilisé la peur des petites gens pour arriver à ses fins. Tous les dictateurs prônent la sécurité, prônent l'ordre. On a cultivé les peurs pour arriver à de la dictature.
Quelle image ces révolutions nous renvoient-elles?
Eh ben, une autre, 1789. Il a toujours fallu résister pour arriver où on en est. Et on est toujours en train d'en vouloir un petit peu plus pour tout le monde.
Alors, elle est importante, cette question de la peur, monsieur Hasni Abidi. Je rappelle que vous êtes le directeur du CERMAM, du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen, qui est à Genève, et vous êtes aussi chercheur invité à l'Université Paris 1. La peur, disais-je, oui. J'entends encore la voix de Jean-Paul II parlant au monde occidental en lui disant, c'était au moment où tout de même il y avait les grands ébranlements à l'Est, la chute du mur, etc. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Peut-être qu'il est temps de nous redire à nous tous, n'ayons pas peur de ce qui est en train de se passer. Mais ce qui est formidablement intéressant à observer, c'est désormais le regard que l'islam peut porter sur l'enjeu démocratique. Comment vous le percevez? Est-il si nouveau que ça, d'ailleurs?
Écoutez, d'abord, la peur. J'aimerais bien rebondir sur ce reportage. Sommes-nous vieux? Je pense que la génération du Maghreb, du Mashrek, c'est très intéressant. Ceux qui sont sortis, ce ne sont pas les vieux, disons, du monde arabe, ce sont les jeunes. Entre 15 ans et 25 ans, à Tunis, à Alger, au Caire, à Alexandrie. Donc, ces jeunes n'ont plus peur. Ils n'ont pas la peur de leurs parents. Cette génération est affranchie. Cette génération veut dire son ras-le-bol, son désarroi. Donc, il y a un élément très important. Pourtant, elle est déclassée, cette jeunesse, mais elle est connectée. Donc, elle ose défier des pouvoirs publics. Finalement, ces jeunes Tunisiens et Égyptiens n'ont connu que Ben Ali et Hosni Moubarak. Donc, ils veulent dire assez, ça suffit. Surtout que ces régimes politiques-là virent vers la succession presque familiale. Donc, on vous a supporté, vous, M. Ben Ali et M. Moubarak, mais de grâce, pas votre fils ou votre gendre. Donc, il y a une situation qui, d'ailleurs, qu'on peut la trouver dans d'autres pays arabes, comme le Yémen, probablement comme l'Algérie. Deuxième élément, si vous permettez, c'est que ces jeunes-là, c'est vrai qu'ils n'ont pas peut-être de projet politique abouti, mais en tout cas, ils veulent être les premiers. Ensuite, si la classe politique va récupérer, ou en tout cas leader de l'opposition, comme on le voit aujourd'hui, ça c'est une autre affaire.
Il y a un pays que vous n'avez pas cité, parce qu'il s'est passé quelque chose de très intéressant, je trouve. C'est l'Algérie. Et quand Ali Belhadj est arrivé, Ali Belhadj donc, islamiste pur et dur, si on peut dire, hein, quand il est arrivé à Bab El Oued, qu'est-ce qu'ils ont fait les jeunes? Ils lui ont dit, dehors.
Retire-toi.
Dehors.
C'est vrai.
Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire aussi que cette génération-là se libère, y compris de l'emprise de l'islamisme radical?
Vous m'offrez une belle transition, parce que les Algériens ont bougé avant la chute du mur de Berlin. Ont bougé le 5 octobre 1988. Malheureusement, l'armée n'a pas laissé ce processus électoral aller jusqu'au bout, au nom de stopper la démocratie, pour sauver la démocratie. Cela dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je suis très content de voir que les jeunes ne brandissent pas des slogans anti-Occident. Le drapeau américain n'a pas été brûlé. On n'a pas vraiment dit à bas l'Occident. On veut plutôt un toit, un job, et on veut plus de liberté. Donc je crois qu'il y a aussi un élément important, c'est que la religion n'est plus un facteur de mobilisation. Les religieux, oui, ont une capacité hors pair de récupérer, de mobilisation sociale, mais le mouvement, son essence n'est pas religieuse. Parce que finalement, l'emploi et le désarroi social, personne ne peut être fâché. Tout le monde est avec cet élément-là. Et ce qui est très intéressant, c'est que les frères musulmans, ça a été dit auparavant, ont beaucoup hésité à prendre le train en marche. Et c'est pourquoi ce sont les premiers aujourd'hui à accepter l'invitation du vice-président Omar Sulayman. Donc cette révolution, elle n'est pas religieuse. Et moi, j'aimerais bien rassurer l'auditeur tout à l'heure qui a peur pour Israël. La politique étrangère ne changera pas forcément en Égypte, parce qu'il y a d'autres paramètres. Et moi, j'aimerais bien toujours rappeler que l'Occident, les États-Unis, les démocraties occidentales, aujourd'hui, s'accommode avec l'État le plus religieux dans le monde, qui est l'Arabie Saoudite. Et personne n'a créé un État religieux. C'est un État wahhabite pur et dur. Et pourtant, il n'y a aucun problème. Donc je crois que le plus important d'abord, ce sont les priorités internes. La politique étrangère, à mon avis, elle obéit à d'autres paramètres qui dépassent ces jeunes et qui dépassent même nos propres peurs.
Mais alors, ce qui pourrait nous apparaître aujourd'hui, comme, pour nous, occidentaux, comme tout à fait paradoxal, par exemple, prenons des cas concrets. Ce sont les islamistes, les frères musulmans, qui ont imposé en Égypte la présence du prix Nobel de la paix, Mohamed El-Baradei. C'est eux, ce sont les islamistes. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'ils sont en train de changer de posture, de vision des choses? Sont-ils en train de s'interroger sur précisément le regard que l'islam peut porter aujourd'hui sur la démocratie? Est-ce que ça va jusque-là?
Vous savez, l'exil parfois est très intéressant et positif. Rachid Ghannouchi, tunisien, quand il est rentré à Tunis, la première déclaration, il a dit « Je ne me présenterai pas ni aux élections présidentielles ni aux législatives. Et j'accepterai le vote, j'accepterai la voix des urnes. » Donc c'est un élément important. Je pense que les islamistes eux-mêmes, après ces années d'exil, ont fait leur propre mue, sont arrivés à comprendre que finalement, il fallait absolument composer avec toutes les couches. C'est un élément important. Deuxième élément, l'Égypte, c'est vrai, vous avez cité les frères musulmans. Les frères musulmans sont conscients. Les frères musulmans, c'est vrai que c'est quand même des rois de l'opportunisme politique. Ils l'ont montré depuis 1943. Donc, ils savent un petit peu, ils ont le flair politique. Baradei, pourquoi? C'est un visage moderne, compris par l'Occident, et les frères musulmans égyptiens sont conscients que l'Occident nourrit une certaine méfiance depuis des années. Donc en optant pour Mohamed El-Baradei, prix Nobel de la paix, ancien directeur général de l'AUA, donc c'est un homme qui se dit laïque, c'est probablement quand même une acceptation, ou disons qu'une assurance par rapport à l'Occident. Ils ont cette capacité, mais ce qui est très intéressant pour les islamistes, il faut absolument les domestiquer. Parce que plus on les exclut, plus ils sont attractifs. Ils deviennent intéressants. Parce que finalement, c'est vrai que le pouvoir, quand vous arrivez au pouvoir, vous avez cité l'AKP, vous n'allez pas dire aux gens, mon programme social en tant que maire d'Alexandrie, c'est l'islam et la solution. Mais moi, j'ai besoin d'un travail, j'ai besoin d'un logement.
C'est d'ailleurs ce qu'ils ont dit d'abord. Absolument.
Donc c'est ça, c'est un élément important dans la domestication. C'est-à-dire comment les associer au pouvoir, d'où la difficulté, vous avez parlé de la transition. La transition, les transitologues disent, la transition politique est un processus démocratique ou politique entre acteurs pas forcément démocratiques. Parce que sinon, ce n'est pas l'autoritarisme. On sort d'un autoritarisme. Évidemment, les acteurs qui vont réfléchir l'après-autoritarisme ne sont pas forcément démocratiques. Sinon, on serait déjà en démocratie.
Alors, autre chose très, très importante, parce que nous sommes là actuellement, avec l'actualité de ce dimanche, hein, au cœur du système politique égyptien. Quand même l'Égypte qui avait relancé le grand courant nationaliste arabe, etc. Et je disais en commençant l'émission, ce qui est magnifique à observer en ce moment, c'est la nouvelle image du monde qui est en train de se composer sous nos yeux, avec des nouveaux rapports de force qui ne sont plus les acteurs d'autrefois. Qu'en est-il de la question de l'arabité dans un monde où les rapports de force entre l'Occident et le reste du monde changent? Est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle arabité émergente et quelle forme pourrait-elle prendre?
Qui sont les gagnants aujourd'hui? Ce sont les trois forces qui ne sont pas arabes. La Turquie, Israël et l'Iran. Donc les jeunes arabes et la classe politique, l'élite politique, elle dit aujourd'hui où va-t-on? Finalement, nous avons trois acteurs qui négocient même la paix dans la région, dans le Golfe, comme l'Iran, la Turquie aussi, qui négocie non seulement entre les Palestiniens du Hamas et l'autorité palestinienne, et le monde arabe est en retrait. Et ça a un rapport avec l'actualité, parce que l'Égypte, justement, a laissé cette place de leader, de locomotive dans le monde arabe, parce qu'elle est minée par ses difficultés internes, parce qu'elle est minée par un pouvoir, quand même, qui est là depuis plus de
30 ans. Et c'est toujours intéressant de voir la photo de Moubarak et de Ben Ali quand ils sont arrivés au pouvoir en 87, surtout Ben Ali en 87 et Moubarak, c'est la même photo. Ils ont subi un lifting incroyable sur le plan personnel, mais ils n'ont pas lifté leur pays, ils n'ont pas lifté la vie politique. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il y a un retrait, oui, du phénomène des pays arabes, de l'arabité, jusqu'à un petit pays comme le Qatar, maintenant joue dans la cour des grands. Donc c'est vrai, le monde arabe ressent ça comme une humiliation. Ils disent, nous ressentons une humiliation sur le plan interne, mais aussi une humiliation internationale, où nous sommes aujourd'hui, franchement, un champ d'influence et d'autres puissances régionales, comme l'Iran et la Turquie, décident aujourd'hui de notre devenir.
Alors Fabrice Balanche, là, on peut dire que c'est un chantier, hein. Parce que cette notion de revanche à prendre, on l'a dit aussi des Chinois il n'y a pas si longtemps. Hein. China is back, comme on a pu dire à une époque, America is back. La chute du mur de Berlin, la fin de l'histoire, dit Fukuyama. Et puis, 20 ans plus tard, le monde qui change. A-t-on jamais, pour un géopoliticien comme vous et un géographe, car vous êtes géographe de formation, a-t-on jamais vu pareil ébranlement ? Bien au-delà des frontières du Proche-Orient et du Moyen-Orient.
Oui, enfin, des ébranlements, on en a eu au XIXe siècle avec le printemps des peuples. Alors, je ne sais pas si on peut faire un parallèle avec la situation aujourd'hui. Mais il est vrai qu'il y a une chose qu'il faut quand même souligner, c'est qu'on est dans une période dans le monde arabe de transition démographique. Il y a le temps des transitions démographiques et toujours le temps des révolutions.
Pourquoi ?
Ben parce que vous avez donc une jeunesse qui est nombreuse aujourd'hui et qui pèse au sein de la population. Alors cela dit, la démographie, enfin la fécondité a diminué dans l'ensemble des pays arabes. Aujourd'hui, on fait moins d'enfants, enfin le taux de fécondité est plus faible en Tunisie qu'en France. Plus faible en Iran qu'en France. On a 1,8 enfants par femme en Iran. Et ça, il y a des techniques, effectivement, de contraception, mais il faut aussi que les gens les prennent. Il faut qu'il y ait une maturation pour que les gens décident de faire moins d'enfants. Et ça, c'est très révélateur d'un individualisme des gens. C'est aussi révélateur de problèmes économiques, hein, parce qu'on en fait moins aussi, parce qu'on a moins d'argent.
Je rappelle au passage, pardon de vous interrompre, mais que c'est par la question démographique qu'Emmanuel Todd avait 20 ans à l'avance annoncé l'effondrement de l'Union soviétique.
Tout à fait, tout à fait. Emmanuel Todd et Youssef Courbage ont justement écrit un ouvrage récemment, Le rendez-vous des civilisations, dans lequel ils expriment bien cette période de danger, de turbulence qui va toucher le Moyen-Orient et le monde arabe, parce que nous sommes dans le temps de la révolution générationnelle. Ces jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi, parce que si la fécondité a baissé il y a 20 ans, en revanche, il y a 20 ans, on était à des taux de fécondité énormes. Et c'est cette jeunesse qui arrive aujourd'hui sur le marché de l'emploi. La démographie, c'est une bombe à retardement. Et on le voit bien aujourd'hui en Égypte, en Tunisie ou ailleurs, où ces jeunes ne peuvent pas trouver de travail, parce qu'en même temps, les anciens sont toujours au pouvoir. Parce que l'espérance de vie, elle a augmenté. Et donc avant, vous aviez des gens qui décédaient vers 60 ans, qui laissaient des places. Aujourd'hui, ils sont toujours au pouvoir.
Mais alors, le choc entre ceux-là que vous décrivez, ceux qui sont dans la rue, que nous décrivons depuis le début de cette émission, et qui portent le mouvement, et les structures en place, et Moubarak en est un exemple absolu, je ne pars pas. Les structures restent en place, de la même façon qu'elles sont plus ou moins restées en place aussi en Tunisie. Qu'est-ce qui se passe ? Quand vous avez un sol qui pousse sur un mur, si le mur n'est pas épais, le mur est emporté. Est-ce que les murs sont épais ?
Moi, je suis moins optimiste que les auditeurs que vous avez interrogés, parce qu'on est dans les sociétés qui sont très structurées par le clientélisme. Donc, on a une émotion populaire en ce moment. Et le pouvoir, les institutions vont essayer de la récupérer en lâchant du lest, en intégrant une partie de ces élites dans le système. Alors le système va évoluer à la marge, mais à mon avis, si on veut vraiment que ces systèmes évoluent, comme ça s'est passé en Europe de l'Est, dans les années 90, il faut une forte pression de l'extérieur. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas, parce que l'Europe veut de la stabilité dans sa zone de voisinage. Donc on a bien vu avec les réactions de notre diplomatie, qui sont très frileuses, on ne va pas...
On avait bien vu qu'avec la Tunisie, on a fait pendant très longtemps semblant de croire que c'était le rempart contre l'islamisme.
Oui, on a fait semblant de le croire, on veut de la stabilité. Et les États-Unis, à l'égard de l'Égypte, c'est pareil. L'Égypte est le principal allié des États-Unis dans la région avec l'Arabie Saoudite. Pour Israël également, le régime égyptien est très, très pratique, puisque ça lui permet d'avoir fait la paix. Hein. Kissinger disait on ne fait pas la guerre au Moyen-Orient sans l'Égypte, on ne fait pas la paix sans la Syrie. L'Égypte, c'est quelque chose de très, très important. Dans la politique israélienne et américaine. Il ne faut absolument pas qu'elle bascule, parce que ça veut être l'instabilité au sud d'Israël, la bande de Gaza, les Égyptiens contrôlent la frontière.
Mais Fabrice Balanche, pendant que M. Obama et lui agissent plutôt plus que les autres d'ailleurs, pendant que M. Obama prend son téléphone pour appeler les autorités égyptiennes, Quelle est la conséquence du fait que le président brésilien, c'était Lula à l'époque, le Premier ministre turc se rendent à Téhéran et discutent sans avoir demandé l'avis d'Obama avec les autorités iraniennes? Ça veut dire quand même que ce n'est pas la même triangulation qui se met en place. Ça veut dire surtout que ce n'est plus le monde occidental qui pilote le destin du monde. Qui est le pilote dans l'avion aujourd'hui?
Le pilote dans l'avion aujourd'hui, je dirais, ce n'est pas vraiment le Brésil, ça serait plutôt ce qu'on appelle la Chine-Amérique. Le G2. Ok, la Turquie, le Brésil interviennent, mais ils n'ont pas la même puissance encore que les États-Unis ou que la Chine, et voire la Russie qui revient sur le devant de la scène. Mais cela dit, c'est vrai que c'est important. Il y a des gestes en Amérique latine, Brésil, Argentine, qui, par exemple, je ne sais pas si le Brésil l'a fait, mais en tout cas l'Argentine a dit qu'il reconnaîtrait un État palestinien en 2011.
Oui.
Et ça, c'est quand même important parce que ça montre que la cause arabe, la cause palestinienne est soutenue par d'autres pays du Sud. En revanche, les Chinois, eux, sont beaucoup plus frileux sur cette question.
Jean-Marc, vous avez l'impression aujourd'hui qu'en effet, c'est la, comment dire les choses sans tomber dans la caricature, mais j'allais dire, c'est pas la chute de l'Empire romain, mais c'est la fin de la puissance occidentale telle qu'elle s'était jusqu'ici exprimée?
Il y a effectivement une évolution nette et des points d'interrogation. Vous parliez de l'accord du 17 mai tripartite entre l'Iran, la Turquie, le Brésil. Ceci dit, on en a vu, comme le disait Fabrice Balanche, les limites également. Parce que la Turquie a été beaucoup plus frileuse depuis le début de l'année, ou beaucoup plus raisonnable, entre guillemets. Ceci étant, ce qui est sûr, c'est qu'il y a indiscutablement une promotion du multilatéralisme de plus en plus, et que dans ce cadre-là, on voit bien que des pays comme la Turquie, bon, qui continue à avoir une alliance fondamentale au travers de l'OTAN, au travers de sa candidature avec l'Union européenne, avec les pays occidentaux, en même temps dit « maintenant nous avons une marge de manœuvre finalement par rapport à vous ». On l'a vu sur des dossiers alors très concrets, notamment en Afghanistan, où elle a refusé d'augmenter ses forces militaires. On l'a vu également à propos du bouclier antimissile étendu à l'Europe. Elle a discuté avec les États-Unis et elle a imposé le fait que l'Iran ne soit pas directement désigné. Donc, effectivement, ces pays qui sont émergents du point de vue économique aspirent à devenir finalement des pays émergents sur le plan politique et à ne plus laisser la gouvernance mondiale aux États-Unis et aux grandes puissances, au G2, de ce qui était évoqué. En même temps, on n'est pas encore dans une révolution totale.
Mais alors, on n'est pas dans une révolution totale, parce que d'ailleurs, les choses sont en cours sans que nous ne sachions, aucun d'entre nous, à l'instant où nous parlons, ce qui peut se passer. C'est ça d'ailleurs qui est absolument passionnant et qui est en même temps toujours une permanente école de modestie. Hein. On ne sait pas où on va et même on ne sait pas toujours ce qu'on peut dire. Mais tout de même, M. Benkirane, le regard du sociologue là est intéressant. Je repense à Edgar Morin quand il disait au fond que nous sommes en train, y compris d'ailleurs grâce aux technologies, de tisser une sorte de conscience planétaire qui nous permettrait de nous penser, nous les terriens, de nous penser ensemble dans un système qui serait en même temps politique, économique, culturel, etc. Est-ce que c'est en train de changer notre conception de la centralité, nous les Occidentaux, qui avons pensé le monde pendant si longtemps? Faut-il que nous acceptions désormais de considérer différemment les choses, de les penser différemment?
Tout à fait, c'est ce que j'appelle le monde post-occidental. Mais ces événements aussi montrent qu'il y a des phénomènes de rejet, de peur de l'autre, mais il y a des phénomènes d'empathie. Et ce qui se passe maintenant en Tunisie, en Algérie et en Égypte, donc autour de cette place de la libération, c'est le moment par excellence de la complexité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à être pessimiste ou optimiste, on est dans une phase possibiliste, un point de bifurcation. C'est ce que j'appelle, moi, du réel à l'état pur, où, justement, ça donne à voir des alternatives possibles. Les gens ne sont pas... Donc, et autour de thèmes, la liberté, voilà, la dignité, qui sont des thèmes universels. C'est pas une vision culturaliste des Arabes ou des Mahométans avec des spécificités. Laissons-les se développer. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une diversité d'approches, de scénarios. Rappelons-nous aussi qu'en Europe, l'Europe de l'Est, ça, il y a eu beaucoup de bouleversements, de chaos, de mouvements chauvins, nationalistes, étroits, de populisme, etc. Mais ce qui est intéressant par rapport à la question de l'islamisme, votre émission s'appelle 3D, il faut aussi voir les mouvements islamistes légalistes dans le monde arabe un peu en 3D, à très court terme. Et au niveau du ras du sol, ça peut apparaître comme un retour du religieux ou du sacré. Mais sur le long terme, moi, je suis l'auteur d'une théorie que j'exprime dans mon livre, Le désarroi identitaire, d'une forme de sortie de l'islam. Et donc, bizarrement, ça contribue à une forme de sécularisation. Quand on dit la sécularisation, moi, je crois que ce mouvement qui se passe est un mouvement séculier. Admettons aussi que la sécularisation, elle s'exprime différents scénarios. La laïcité française, c'est pas la même chose que la sécularisation. Moi, j'habite à Genève, hein, c'est la Rome protestante, ou que le modèle anglo-saxon, ou que la religion civile. Donc, ce qui se passe actuellement dans le monde arabe et dans le monde islamique, c'est ça qui est intéressant. Est-ce que les islamistes peuvent contribuer à un pluralisme? Parce que nous avons besoin d'eux. Pas pour leur théorie. Moi, je pense qu'ils sont déficients au niveau du projet de société, au niveau de la pensée. Mais ils ont une fonction pratique. Ils ont une fonction ils partent à une absence de l'État.
Mais sur cette question très, très intéressante de la sécularisation, il y en a une que j'aurais dû vous poser il y a déjà longtemps dans cette émission, c'est la place des femmes. Et quel est le rôle que les femmes qu'on a vues, et avec quel courage? Souvenons-nous, il y a 3 ou 4 ans dans les rues de Téhéran.
Tout à fait.
Au premier rang, devant la police iranienne qui ne fait pas dans la dentelle. À Alger, et pendant la guerre civile algérienne. Le comportement, le rôle des femmes dans la rue. À Tunis, les images qu'on a pu voir ces jours-ci sur toutes les chaînes de télévision, des femmes dans la rue et sur la place au Caire. Est-ce que ce ne sont pas les femmes qui, s'agissant de la question de l'islam et de la démocratie, et notamment de la sécularisation que vous évoquez, qui sont en train de tenir un rôle de premier plan?
Absolument. Et ce qui s'est passé, il faut rendre hommage aux millions de gens qui en Iran, l'année dernière, sont sortis et ont donné le signal fort d'une sortie de la phase, je dirais, fondamentalisme, cette qui essentialise l'accessoire et qui accessoirise l'essentiel. Mais les femmes sont au premier plan, et comme il a été évoqué, c'est s'inscrit dans des analyses, des indicateurs démographiques. Le recul de l'âge au mariage, la hausse du taux de scolarisation. Donc, c'est des facteurs de modernisation mentale. Et donc, le taux de fécondité aujourd'hui qui montre que c'est ça la véritable modernisation. Des femmes qui travaillent. Donc, vous aurez obligatoirement une sécularisation, une ouverture, y compris au sein de la mouvance islamique, j'insiste.
Un mot, je vous en prie, monsieur Abidi.
Oui, on peut être une femme, et une femme voilée et féministe. Ce n'est pas contradictoire. Et je crois que si les femmes aujourd'hui sont en première ligne, parce qu'elles sont les premières victimes d'une lecture biaisée et radicale de l'islam, d'ailleurs utilisée et soutenue par les pouvoirs en place, qui ont les premiers ont voulu utiliser, récupérer le champ religieux, le fait religieux, pour rester davantage au pouvoir. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, vous avez raison de parler, par exemple, de ces forces, des nouvelles forces, des acteurs, moi, émergents. On a surestimé le rôle des Américains. On le voit aujourd'hui, Obama et Clinton disent « Monsieur Moubarak, maintenant, now », et Obama dit « Non, je reste, vous avez encore besoin de moi ». Donc on a surestimé. Mais on a aussi sous-estimé leur pouvoir de nuisance parce que, par cette myopie internationale des démocraties occidentales, ils ont contribué à l'allongement de ces régimes autoritaires. C'est vrai que leur place est délicate parce qu'à la fois, ils gèrent une grande contradiction. Comment maintenir des régimes autoritaires qui, franchement, il faut le dire, remplissent très bien le cahier de charge?
sécurité, etc., tout ce qu'il faut. Donc on ne pouvait pas trouver mieux que Moubarak et Ben Ali et M. Bouteflika et le roi de Jordanie, le roi du Maroc, on ne pouvait pas mieux. Et en même temps, comment ne pas rater la fête démocratique ? Parce qu'ils ont appris la leçon depuis la révolution iranienne. Ils se disent aujourd'hui, mon Dieu, c'est demain, il y a du nouveau pouvoir et on n'a pas joué le jeu avec eux, demain on sera les premiers exclus. Donc c'est une grande contradiction pour eux. Et à mon avis, la clé, c'est quoi ? C'est plutôt de faire alliance, de faire confiance aux institutions issues du peuple. Donc faire plutôt confiance aux aspirations du peuple et pas aux hommes, parce que les hommes ne sont pas éternels.
C'est une analyse extrêmement intéressante. Jean Marcou et également M. Balanche en conclusion, parce qu'il va être l'heure du journal de Philippe Habitboul, qui va d'ailleurs nous ramener probablement au centre du Caire dès le début du journal. Je vous en prie, Monsieur Marcou. Un commentaire sur ce que vous venez d'entendre ?
Sur les femmes, je crois que moi, c'est une question qui m'a beaucoup intrigué, parce que j'étais à la tête d'une filière en Égypte qui était à 80% féminine. Et ce qui me frappait, c'était juste... Je crois qu'elle représente effectivement une force d'insurrection, une force de changement qui est très importante. Parce que, véritablement, effectivement, il y a de plus en plus cette aspiration à travailler, cette remise en cause d'une société patriarcale, des traditions, cette entrée, finalement... participation au monde. Moi, je vois, par exemple, le Facebook, j'ai énormément d'amis, entre guillemets, qui sont d'anciennes étudiantes, et il y a vraiment on sent qu'on mène une vie parallèle sur Facebook, véritablement. Donc, et en même temps, il faut bien voir que les femmes égyptiennes vivent des choses très dures dans le quotidien.
Ça, il n'y a aucun doute.
C'est-à-dire, bon, un poids du père, du mari, et également le problème de l'excision, hein, qui est effectivement un fléau en Égypte tout à fait incroyable. Donc comment peut continuer, si vous voulez, une société comme ça, qui à la fois laisse partir les aspirations justement à l'émancipation et en même temps, finalement, bloque les choses ?
Merci vraiment, messieurs. J'avais dit qu'on n'aurait pas le temps de faire le tour de toutes les questions posées par un tel sujet, évidemment pas, mais grâce à vous quand même, on y voit plus clair sur les enjeux. Merci à vous d'écouter France Inter. Rendez-vous pour la deuxième partie de 3D après le journal de Philippe Habitboul à 13h30. Mais il est 13h tapante. Le journal, Philippe Habitboul. Bonjour Philippe.
Bonjour Stéphane, et nous reviendrons à Annecy bien sûr pour la deuxième partie de 3D à 13h30. Bonjour à toutes et à tous. Et oui, l'Égypte pour commencer, 13e journée du soulèvement populaire contre Hosni Moubarak. Le nouveau gouvernement ouvre les discussions avec les partis d'opposition, à commencer par les Frères musulmans. Ils représentent 20% de la population et pendant ce temps au Caire, la vie tente de reprendre ses droits. Dakar, le Forum social mondial débute sur fond de contestation dans le monde arabe. Le sommet altermondialiste s'ouvrira cet après-midi par une marche dans les rues de la capitale sénégalaise. Michel Alliot-Marie et son voyage en Tunisie, les dernières explications de la ministre des Affaires étrangères, loin d'apaiser les esprits, renforcent la polémique. Dans ce journal, nous écouterons le socialiste Jean-Marc Ayrault expliquer que, contrairement à ce que dit Mam, un ministre en vacances reste un ministre. 6000 personnes évacuées ce matin à Boulogne-Billancourt, le temps de neutraliser une bombe datant de la Deuxième Guerre mondiale. Nous parlerons également auto-moto dans cette édition de 13h. Auto avec la vente aux enchères prestigieuse hier soir au Grand Palais à Paris. Elle a rapporté plus de 10 millions d'euros. Et puis moto avec le Salon de Lyon réservé aux professionnels. Moto et surtout scooter à 2, 3 et bientôt, paraît-il, 4 roues. Rugby, le tournoi destination, petite victoire des Français hier 34-21 face à l'Écosse. Pour jouer contre l'Irlande dimanche prochain à Dublin, un seul changement. Yannick Jauzion, le Toulousain, remplacera Maxime Mermoz, blessé à l'épaule. Le temps, demain, ciel gris, un peu plus de pluie sur l'extrême nord-ouest. Ailleurs, du soleil et des températures très acceptables pour la saison. Enfin, à 13h20, périphérie, Édouard Zambeau s'intéresse aujourd'hui aux jeunes des quartiers en difficulté. 1 sur 2 est au chômage, difficile de trouver un emploi, surtout en l'absence de diplôme. Pour les aider, les missions locales se mobilisent. Périphérie s'est rendue à la mission qui gère les jeunes de Bobigny, Drancy et Le Blanc-Ménil.
France Inter.
L'Égypte, après la colère populaire, retour de la politique. Le vice-président Omar Souleymane a entamé ce matin des consultations avec les représentants de l'opposition pour tenter de trouver une issue à la crise. Claude Guibal, vous suivez au Caire ces discussions. C'est Omar Souleymane qui est à la manœuvre. Ses interlocuteurs vont pouvoir mesurer très vite le sérieux des autorités et vérifier si oui ou non elles comptent vraiment répondre aux revendications de la population.
Alors vous savez, pour l'instant, on reste vraiment dans les consultations. Hein. On discute, on prend le pouls, on gagne du temps. En fait, on essaie de faire retomber la tension. Il y a des gestes qui sont faits, la démission du comité exécutif du PND, le Parti National Démocratique, qui est au pouvoir hier, par exemple. Tout cela, ça rentre dans ces mesurettes apaisantes. Alors, il y a une stratégie hein, qui peut être payante en ce moment pour le pouvoir, qui est celle de l'essoufflement, de l'enlisement de ce soulèvement. Parce que ce que à quoi on assiste en ce moment, c'est qu'on se retrouve face à un mur constitutionnel. Vous le savez, maintenant, il est désormais acquis que le maintien d'Hosni Moubarak au pouvoir est la seule garantie possible d'organiser une transition démocratique, puisque sinon, il faudrait organiser des élections dans un délai trop rapide qui ne permettrait pas l'émergence de candidatures sérieuses.
Alors, on sait que ces élections, l'élection présidentielle est prévue pour le mois de septembre. Toutes les tendances politiques de l'opposition ont accepté le dialogue avec le nouveau vice-président, y compris les frères musulmans. Et là, c'est une grande première, car ce mouvement était jusqu'à présent officiellement interdit. Les frères musulmans représentent en fait le véritable interlocuteur du nouveau gouvernement.
Alors absolument, hein, Philippe, la confrérie islamiste a été interdite en 1954 et c'est vrai que c'est là la grande révolution de ces derniers jours. C'est la première fois que les islamistes sont donc considérés comme des partenaires acceptables, des interlocuteurs pour le pouvoir égyptien. Et c'est peut-être un jeu dangereux qui s'installe là pour l'un comme pour l'autre, parce que Omar Souleymane, le vice-président égyptien, n'a jamais caché son antipathie pour les islamistes, et s'il leur tend la main, c'est bien parce qu'il a besoin d'eux pour affaiblir l'opposition, car ici les frères, ce sont quand même le nombre, hein. C'est la première force d'opposition en termes de masse dans le pays, c'est aussi la force la mieux structurée, la plus nombreuse, donc vous voyez le reste de cette Égypte qui s'est soulevée ces derniers jours est très protéiforme. Ceux qui ont mené la dynamique, ce sont effectivement les jeunes, mais qui ne sont pas nécessairement prises avec les islamistes, sauf sur un seul constat, c'est reconnaître que ces islamistes, eh bien, représentent une vraie partie de la société égyptienne, qu'on le veuille ou non, et qui doit être prise en compte si on veut parler de véritable jeu démocratique.
Alors en attendant que les discussions avancent, les anti-Moubarak sont encore au centre-ville, place Tahrir. La politique cherche une issue pour sortir de la crise. Moubarak, lui, se fait très discret, mais il est toujours là et compte bien rester en place. Quant aux Égyptiens, eh bien, ils sont rattrapés par la réalité du quotidien.
Oui, après ces 12 jours un petit peu terrible auquel les Égyptiens ont assisté. Il faut désormais un retour à la normale. Les gens veulent tout bêtement gagner de l'argent, reprendre une vie, le cours de leur vie le mieux possible. Il y a un manque à gagner énorme. Alors ce matin, il y a eu une réouverture progressive des banques. On a vu des queues énormes devant les guichets. Tous les gens ne parlent que de ça, hein, de cette économie qui va se retrouver à plat. Les cabinets d'affaires là font face à une demande énorme des investisseurs étrangers qui essaient de faire jouer les clauses de force majeure pour rompre des contrats qui sont en cours. Il faut dire que l'Égypte connaissait une croissance extraordinaire, encore 6% malgré la crise, et tout cela, eh bien, ça va probablement pas durer, car le tourisme, qui est la première source de revenus du pays, va probablement énormément souffrir de cette crise. Il est aussi possible que les revenus du canal de Suez, qui sont une autre source majeure de revenus, eh bien, soient affectés par une probable hausse du coût des assurances du fait de cette instabilité qui maintenant pourrait s'installer sur le terme.
Claude Guibal, direct du Caire. Merci Claude Guibal. Et justement, on va voir que effectivement, la vie reprend timidement ses droits au Caire avec le reportage réalisé par l'une de nos envoyées spéciales dans la capitale égyptienne, Géraldine Allo.
L'activité ce matin au Caire reprend peu à peu son cours normal, même sur la place Tahrir où sont toujours regroupés des centaines d'opposants. Quelques magasins ont levé leurs rideaux. Une agence de voyage, par exemple, attend d'hypothétiques clients. Les employés est bien conscient qu'il faudra du temps avant que les touristes reviennent. Ailleurs dans la ville, les habitants retournent progressivement au travail. Dans le quartier très commerçant des Amalek, les magasins, les bureaux de poste, les banques ont rouvert pour la première fois depuis 10 jours. Les habitants en profitent pour retirer de l'argent. Il y a de longues files d'attente au guichet. Là aussi, tout redémarre très doucement. Il faut faire l'état des lieux, évaluer les pertes et surtout déclencher le paiement des salaires qui bien souvent étaient bloqués. On est donc ce midi dans une sorte d'entre-deux. Le Caire offre un visage presque ordinaire et en même temps, la situation politique est toujours complètement bloquée. Les manifestants de la place Tahrir estiment que s'ils maintiennent la pression, Moubarak finira bien par partir. Mais ailleurs, on nous dit que le président égyptien pourrait tirer parti de ce semblant de normalisation. Au Caire, Géraldine Allo, France Inter.
Le Forum social mondial s'ouvre aujourd'hui à Dakar au Sénégal, 11e sommet altermondialiste. Tous les acteurs de la société civile internationale ont fait le déplacement, y compris bien sûr les représentants africains, avec en toile de fond l'actualité immédiate, les soulèvements et révoltes dans le nord du continent avec les dossiers tunisiens et égyptiens. Une marche débutera à 15h pour lancer officiellement ce forum de Dakar. Et à l'évidence, Dominique André, la semaine de travaux qui commence aura, vu le contexte, plusieurs priorités.
Absolument. Et donc cette marche d'ouverture qui est prévue dans 2 heures environ compte déjà beaucoup de monde. Le rassemblement en fait a déjà commencé sous cette bannière, sous ce slogan célèbre du mouvement altermondialiste. Un autre monde est possible. Il y a déjà beaucoup d'ONG présentes, des associations, des syndicalistes, des intellectuels et surtout des jeunes africains qui sont rassemblés derrière une grande banderole blanche sur laquelle on peut lire « Jeunes d'Afrique ». Bâtissons un autre monde. Alors ce 11e FSM et le 2e en terre africaine représentent, c'est vrai, un défi pour l'Afrique et pour cette société civile qui s'émancipe. Des centaines d'ateliers vont se réunir à partir de cet après-midi avec en toile de fond ces deux révolutions de Tunisie et d'Égypte. Au programme aussi le G20 et le G8. Les altermondialistes veulent maintenir la pression pour que leurs idées, notamment celle d'une taxe sur les transactions financières, aboutissent. Une idée, faut-il le rappeler, jugé idéaliste par les gouvernements il y a quelques années, mais qui est inscrite à l'agenda de la présidence française du G20.
Merci Dominique André, en direct de Dakar. Le séjour contesté de Michel Alliomari en Tunisie, les reproches qui sont faits à la ministre des Affaires étrangères concerne l'utilisation du jet privé de son ami tunisien Aziz Miled, homme d'affaires réputé proche du clan Ben Ali. Michel Alliomari aurait pris cet avion à 2 reprises et puis la ministre a ajouté hier pour sa défense que lorsqu'elle est en vacances, eh bien, elle n'est pas ministre. Voilà d'ailleurs qui relance plus encore la polémique avec à gauche des réactions scandalisées comme celle de Jean-Marc Ayrault, le président du groupe socialiste à l'Assemblée, joint au téléphone par Cécilia Arbonat, France Info.
On est toujours ministre de la République, qu'on soit en vacances ou en activité. Ce n'est pas entre parenthèses. S'il y avait une crise, elle serait bien obligée de revenir dans le pays. On est toujours ministre de la République. C'est vraiment... Non, mais écoutez, j'ai même plus envie de répondre à ces arguments. Ils sont tellement lamentables. Je crois qu'on est dans l'indécence. Il s'agit de la ministre des Affaires étrangères de la France et qui passe ses vacances dans un pays qui est en pleine révolte populaire. Et en plus, qui se permet des comportements inacceptables. Et donc, Madame Alliomari, elle ne devrait même pas se poser la question, comme ça se fait dans d'autres pays, je pense aux pays anglo-saxons, il y a longtemps qu'elle aurait démissionné. Ben, elle devrait se dire, sans qu'on ait à lui demander, je m'en vais, je m'adresse plus à elle, je m'adresse à M. Sarkozy, qui va s'exprimer devant les Français le 10. Si vous voulez donner un peu de confiance aux Français dans les institutions de la République, vous devriez changer votre ministre des Affaires étrangères, c'est bien le moins.